J'ai décidé de commencer mon voyage à Pékin lors du premier anniversaire de l'ouverture de la ligne. Il y a 6400 km jusqu'à Moscou. La compagnie promet un voyage en 15 jours, durée extraordinairement courte si on la compare aux nombreuses semaines jusqu'ici nécessaires pour traverser le continent. Bien sûr, le train lui-même est en gestation depuis longtemps. La compagnie transsibérienne a proposé la construction d'une voie ferrée dans les années 1850, soit un demi-siècle après que les mutations ont été constatées pour la première fois, et 20 ans après la construction des murs et la fermeture des terres oubliées, comme on avait déjà commencé à les appeler. Les voies, décidèrent-ils, seraient construites simultanément à partir de la Chine et de la Russie, grâce à des trains spéciaux conçus de façon à permettre la pose des rails sans exposer les ouvriers aux dangers extérieurs. Nombreux furent ceux qui doutèrent du pari immense de la compagnie et critiquèrent l'ubris d'une telle entreprise. Cependant, si elle allait demander 2 décennies et le travail de centaines et de centaines d'hommes, la compagnie transsibérienne parvint finalement à relier les continents par une voie de chemin de fer, traversant l'immensité hostile des terres oubliées. Le guide du voyageur prudent dans les terres oubliées. Page 2.
Chapitre 1. La menteuse. Pékin, 1899. Une femme portant un nom d'emprunt se tient sur le quai. De la vapeur dans les yeux. Un goût d'essence sur les lèvres. Le sifflet du train, aigrelet, urgent, laisse place aux sanglots d'une petite fille non loin et aux cris des marchands de bibelots qui vantent leurs frêles amulettes, protections imparables selon eux, contre la maladie des terres oubliées. Elle se force à lever les yeux, à le regarder bien en face, ce train qui la surplombe, crachotant, vrombissant, en attente, vibrant de puissance contenue. Comme il est énorme, d'une solidité implacable. Il fait 3 fois la largeur d'une voiture tirée par des chevaux. À côté, toute la gare semble aussi fragile qu'un jouet d'enfant. Elle se concentre sur sa respiration, s'efforce de vider son esprit de toute autre pensée. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Elle s'y est exercée un long jour après l'autre au cours des 6 derniers mois, assise à sa fenêtre, observant les pickpockets et les négociants dans la rue en bas, laissant le spectacle glisser sur elle, laissant son esprit devenir aussi transparent que de l'eau. Elle s'accroche à l'image d'une rivière grise qui coule lentement. Si elle pouvait seulement la laisser la ramener en lieu sûr. Maria Petrovna? Il lui faut un moment pour prendre conscience que c'est à elle que s'adresse le porteur, et elle se tourne vers lui avec un sursaut. Oui, oui. Trop fort pour dissimuler son trouble. Elle n'est pas encore habituée aux syllabes de son nouveau nom. Votre cabine est prête et vos bagages ont été déposés à bord. Son front est perlé de sueur, sueur qui forme également une ligne humide et sombre tout autour de son col. Merci. Elle est rassurée de constater que sa voix ne tremble pas. Maria Petrovna n'a pas peur. Elle vient de naître. Elle ne peut qu'avancer, suivant le porteur qui disparaît dans la vapeur, interrompu par des aperçus de peintures vertes et de lettres dorées en anglais, ainsi qu'en russe et en chinois. Transsibérien Express. Pékin-Moscou. Moscou-Pékin. Ils ont dû passer les derniers mois à peindre et à lisser. Tout brille. Nous y voilà. Le porteur se tourne vers elle, s'essuyant le front en y laissant une tache sombre et grasse. Elle est désagréablement consciente de ses propres vêtements qui irritent sa peau dans la chaleur avec la soie noire qui retient le soleil. Son chemisier lui griffe le cou et sa jupe la serre à la taille, mais elle n'a pas le temps de s'inquiéter de son apparence, car le porteur lui tend le bras d'un geste raide. Et elle monte les hautes marches du train, où un autre homme en uniforme lui prend la main avec une courbette et l'entraîne dans les couloirs tapissés d'une moquette épaisse. Elle est à bord, et il est trop tard pour revenir en arrière à présent. En face d'elle, un homme avec une barbe, des lunettes cerclées d'or et le genre de voix qui balaie toutes les autres se penche par la fenêtre et crie en anglais
Où est le chef de gare? Faites attention avec ces cartons. Oh, je vous demande pardon.
Il se plaque contre la fenêtre et esquisse une petite révérence à l'approche de Maria. Elle se contente d'un bref sourire et d'un petit hochement de tête et le laisse à ses vociférations. Elle n'a aucune envie de mondanité, et le regard curieux des hommes qui observent déjà sa tenue de deuil noir d'un air interrogateur, remarquant sa solitude, ne l'attire nullement. Qu'il remarque. Tout ce qu'elle veut, c'est se retrouver seule dans son compartiment, fermer la porte, tirer les rideaux et se retrancher dans un silence rassurant. Mais on ne va pas l'y autoriser. Pas encore tout à fait.
Franchement, arrêtez vos simagrées, je suis parfaitement capable de prendre soin de moi.
Une vieille dame approche de l'autre bout de la voiture, vêtue de soie bleu marine et suivie de sa camériste.
On est bien en première classe.
Elle regarde Maria, puis la porte du compartiment à côté d'elle.
On m'avait laissé entendre que ce train était le fin du fin. J'avoue que ça ne me saute pas aux yeux.
Entendre les intonations familières du Saint-Pétersbourg fortuné à des milliers de kilomètres de ses larges rues et hautes bâtisses serre douloureusement le cœur de Maria. Elle est prise de nostalgie.
Votre compartiment, madame, annonce le steward, qui fait une révérence à Maria mais jette des regards nerveux à la vieille dame.
Vous voyagez seule ?
Lui demande cette dernière tout en écartant d'une petite claque sur les mains sa camériste qui tente de lui passer un châle supplémentaire sur les épaules. Maria lit dans ses yeux un mélange de pitié et de reproche et rougit. Ma camériste n'a pas pu faire le voyage, elle était trop fragile nerveusement.
Eh bien, heureusement que nous avons les nerfs plus solides que ça. Mes neveux ont du sang de navet. Après avoir passé des mois à tenter de me dissuader en me rapportant toutes les atrocités qui risquaient de me tomber dessus, ils n'ont réussi qu'à se faire peur à eux-mêmes, à mon sens.
Elle se fend d'un sourire inattendu et donne une petite tape amicale sur la main de Maria.
Bon, maintenant, où est ma cabine? Si Vera n'arrive pas très bientôt à me caler dans un fauteuil avec une tasse de thé, je ne réponds pas de mes actes.
Juste là, comtesse.
Le steward fait une révérence bien plus prononcée et un geste théâtral du bras. La camériste, Vera, ouvre la porte à bout de bras comme si elle craignait les horreurs tapies à l'intérieur.
« Ah, on va être voisine alors, » dit la comtesse.
Maria s'incline à son tour.
« Non, pas de ça entre nous. Je m'appelle Anna Mikhailovna Sorokina. Et vous ?»
Une fois de plus, son souffle se trouble. Elle éprouve un vertige, comme si elle avait manqué une marche dont elle avait oublié l'existence, mais la comtesse ne semble pas remarquer son hésitation.
« Je m'appelle Maria Petrovna Markova », dit-elle.
« Eh bien, Maria Petrovna, j'ai hâte de faire mieux connaissance avec vous. Après tout, nous aurons bien le temps. »
Et à ces mots, la comtesse se laisse guider vers son compartiment par la camériste, une petite femme qui observe Maria par en dessous.
Vous aurez encore besoin d'aide ?
Le steward se pourlèche et déglutit.
Il a peur, se dit Maria.
Et paradoxalement, ça lui redonne du courage.
Non,
répond-elle plus fermement qu'elle ne s'y attendait.
Non, je n'ai plus besoin d'aide.
Ses valises ont été rangées proprement sur le casier au-dessus du lit, transformées en canapé pour la journée et garnies de voluptueux coussins. Tout a l'air neuf. La compagnie a dû investir là-dedans et fait parade de son assurance jusque dans les broderies dorées des coussins, le cuivre luisant des murs et la moquette bleu profond, moelleuse sous ses pieds. Partout, les armoiries de la compagnie transsibérienne, les lettres entrelacées autour du vase garni de fleurs, des lampes, en relief sur les tasses en porcelaine et sous-coupe sur la petite table à côté de la fenêtre. Sa mallette d'affaires pour la journée est posée sur le fauteuil à côté. La fenêtre est encadrée de persiennes et de rideaux de velours bleu. De l'autre côté de la vitre, deux épaisses barres en acier. Elle les fixe un moment, puis se dirige vers le mur, où deux portes entrecoupent l'acajou verni. L'une donne sur un dressing où sont déjà suspendues ses robes et son châle, déballés par des mains inconnues. L'autre donne sur un cabinet, avec un lavabo compact en porcelaine blanche, des robinets en acier luisant, et une étagère supportant une brosse à cheveux et des petits pots de crème de Paris sous un miroir au cadre argenté.